Voilà, c'est une grande joie encore d'être avec vous. Et j'aimerais vous parler cet après-midi du pouvoir des mots. Le pouvoir des mots. Marie vient de vous chanter le pouvoir d'un mot que son père a prononcé. Vous savez, on écoute toujours les paroles de quelqu'un qui va mourir. Ça prend plus de valeur. Et il y a des mots, et qu'on le veuille ou pas, tous les mots ont leur importance. Ou en tout cas, une incidence. La Bible nous dit, un jour, c'est un centenier romain, un officier romain, qui a son serviteur qui est malade, qui est à la maison, qui est malade, son esclave qui est malade. Et puis, il interpelle Jésus et il lui dira ceci, « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Et Jésus, parlant avec cet homme, dira à propos de cet homme, cet officier romain, « Même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. » Même Jésus était impressionné par la foi de cet homme, parce que finalement, cet homme, il demandait pas grand-chose, il demandait un mot. Mais au fond, il demandait l'essentiel. Il avait tout compris de la vie. Et oui, certainement, il avait compris qu'il y avait des tas de choses qui pouvaient apporter certains plaisirs. Mais lui, maintenant, il avait besoin d'un mot. Un mot pour vivre, un mot de guérison, un mot de délivrance. J'ai remarqué que nous vivons dans un monde sonore. Vous avez remarqué ça? On vit dans un monde sonore. On vit dans un tel monde sonore qu'on a du mal même nous, même à titre personnel, parfois de se retrouver dans le silence. Et vous avez remarqué que parfois même le silence, ça nous gêne. On va allumer quelque chose et on vit, voilà, c'est comme ça, dans un monde bruyant. Et on a besoin d'entendre. Les médecins nous expliquent que la surdité est un handicap sérieux, très sérieux. Et parfois, et les médecins encore de nous dire qu'il est aussi handicapant que la cécité. Je ne sais pas si des fois vous réfléchissez à ces handicaps, on se dit bah, qu'est-ce que je préférerais être ? Je préférerais être aveugle ou sourd ? C'est difficile de répondre à cette question. Et les médecins nous disent mais la cécité, c'est un handicap très sérieux, très handicapant parce que il nous coupe de toute communication. Certes, on peut toujours voir, mais on est en dehors de toute connexion. On voit les gens, mais on les entend pas. Et imaginez, vous retrouvez un repas de famille, et vous êtes là, vous mangez, vous voyez, mais vous ne pouvez rien entendre. C'est-à-dire, vous savez, la surdité, ouais. La surdité est aussi handicapante que la cécité. Il y en a une qui suit. C'était pour savoir si vous suiviez. Parce que la capacité d'entendre nous donne la capacité de communiquer. D'ailleurs, en général, quelqu'un qui est sourd, il est muet à la fois. Parce que le fait d'être muet, c'est la conséquence de la surdité. Je peux pas m'exprimer. Bref, on entend, pour ceux qui peuvent entendre en tout cas, beaucoup de bruit. Et dans ces bruits, il y a des paroles. Il y a, on l'a entendu, les paroles de la chanteuse, du chanteur, les paroles du poète, les paroles du philosophe. Il y a les paroles du scientifique, il y a des tas de paroles de l'enseignant. Et puis, il y a aussi les paroles du gendarme. Vous avez remarqué que ça n'a pas la même, portée. Les paroles du gendarme, les paroles du policier, du magistrat, de l'homme politique, du président, du roi. Et ces paroles-là, on le sait tous, ce sont des mots qui tranchent, qui décident, qui ont une influence sur nous. Vous avez remarqué qu'il faut rouler maintenant à 80. 80 sur les routes nationales, à deux voies. Si elles ont trois voix, c'est encore 90. Parce qu'un jour, quelqu'un a décidé, la parole du législateur a tranché, et qu'on le veuille ou pas. Et j'allais dire qu'on soit d'accord ou pas, c'est comme ça. On est obligé maintenant de s'y plier. Il y a des paroles qui décident, qui tranchent. Il y a les paroles qui enseignent, des paroles qui informent, des paroles qui nous aident à penser. Et puis il y a aussi des paroles qui revendiquent, qui réclament, qui hurlent, qui crient. Et puis il y a aussi les paroles qui agressent, qui blessent, qui condamnent, qui maudissent, qui écrasent, qui aveuglent. Vous savez, ces paroles qui parfois nous empêchent de dormir, les paroles qui inquiètent. Il y a les paroles qui viennent des hommes. La Bible nous explique aussi que nous, nous croyons à la réalité de Dieu, mais nous croyons aussi à la réalité du diable. Et j'aimerais aussi vous dire que le diable, il parle aussi. Et les mots du diable sont des mots inquiétants, des paroles pour souiller, pour salir, pour pervertir, pour tenter, pour tromper, pour accuser, pousser à la dépression, au suicide, etc., etc. Et si vous prenez l'ensemble de toutes ces paroles, eh bien, là encore, il faut bien que nous le comprenions. Nous sommes, vous comme moi, le produit de paroles qui nous ont façonnés, oui ou non ? On a été, par exemple, notre culture. Moi, j'ai appris que dans le Sud-Ouest, Si vous allez à la boulangerie en réclamant un pain au chocolat, on vous tranche la main. Un mot près. Faut dire chocolatine. Là, vous avez le sésame. Voyez, les mots nous façonnent. On remarque aussi, certains ont dit, bah, vous venez du Nord. Et oui, ça s'entend, non seulement le mot, mais l'accent. L'accent, eh ben, qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Moi, je peux pas faire autrement. Quand je parle, il pleut. C'est vrai, hein. Vous avez des gens du Sud, quand ils parlent, il fait beau. On vient pas de la même culture. On vient pas de la même région. Mais j'ai pas choisi, moi, ma région de naissance. C'est comme ça. Nous, on est avec un nuage de pluie au-dessus de la tête. En Normandie, c'est comme ça. D'ailleurs, l'été, nous, on bronze sous la pluie. Moi, en vacances, je cherche la pluie. Vous voyez, ça me détend, la pluie. Quand je suis au soleil, j'ai pas l'impression d'être chez moi. Vous voyez? Puis, bon, voilà. Mais c'est comme ça. Et qu'on le veuille ou pas, les paroles qu'on a eues dans l'enfance nous ont façonnés. Ont façonné notre accent, notre manière de parler, les mots. Mais plus que ça, nous ont façonné aussi dans nos raisonnements. Et là, ça peut être positif, mais ça peut être aussi destructeur. On le sait, il y a des paroles qui font du bien. Mais on le sait aussi, il y a des paroles qui font du mal. Et on le sait très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, le législateur se pose la question, mais comment définir le harcèlement moral ? Le harcèlement physique, on sait ce que c'est. Je tape sur quelqu'un physiquement, il y a une réaction, c'est physique, on peut le quantifier, on peut le mesurer. Bon, mais le harcèlement moral, ça commence où et ça s'arrête où ? C'est plus compliqué, là. C'est parce que le harcèlement moral, finalement, j'y ai pas touché, moi. J'ai rien fait, vous voyez, imaginez que j'harcèle le pasteur Laurent. Mais si je le tape, alors là, on peut, voilà, ben voilà, il y a un bleu, on peut aller chez le médecin, on vérifie, on quantifie, on mesure, on photographie. Mais un harcèlement moral, où ça commence? La petite moquerie, la grosse moquerie, l'humiliation, l'insulte? Vous savez, quand vous entrez dans une pièce où il y a du monde et quand vous entrez, tout le monde se tait. Je sais pas si vous avez déjà connu ça. Des moments gênants comme ça, hein. Il y a des moments où vous entrez, tout le monde se tait. Alors des fois, tout le monde se tait parce que tout le monde se tait. Mais d'autres fois, tout le monde se tait parce que vous venez d'arriver, quoi. Donc vous vous en déduisez. Il y a des mots, il y a même des silences qui font du mal. Il y a des mots qui font du mal. Alors ça, c'est les paroles qu'on reçoit, paroles des hommes, paroles du diable. Et puis, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole, d'abord, j'aimerais vous parler de la parole faite chair. Nous, croyants, on aime la fête de Noël. Et vous savez pourquoi on aime particulièrement la fête de Noël ? Parce que le christianisme, c'est la seule religion au monde où Dieu s'est fait homme. La seule religion. Allez chercher dans toutes les autres religions, il n'y a pas de Dieu fait homme. Le seul Dieu fait homme, il s'appelle Jésus. Jésus né dans une étable, d'une vierge. Jésus qui a marché au milieu de nous. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important ? Parce qu'à ce moment-là, à partir du moment où Jésus s'est incarné en homme, Dieu est devenu accessible, touchable. Imaginez si on avait vécu à l'époque de Jésus, on pouvait s'approcher de Jésus, on pouvait le toucher, on pouvait l'écouter, on pouvait croiser son regard. Et Dieu est venu sous la forme d'un homme justement pour devenir atteignable. Et toute la bonne nouvelle de l'évangile, c'est de nous faire comprendre que Dieu est touchable. Que Dieu veut nous entendre, que Dieu veut nous parler, que non seulement Dieu est touchable, mais que lui aussi veut nous toucher, nous guérir, nous délivrer, nous bénir. On voit dans les évangiles, par exemple, à un moment donné, des enfants qui sont là, qui veulent s'approcher de Jésus, et c'est même Jésus qui fera la police et qui dira aux adultes, non, ne les empêchez pas de venir à moi. Et Jésus qui bénira les enfants, il les bénira, j'allais dire, presque physiquement. Il les touchera. C'est le seul Jésus. Vous savez que l'Ancien Testament dit que quand un lépreux vous touchait, vous deveniez impur. C'est la loi mosaïque. On appelle ça la loi mosaïque. C'était une loi même qui venait de Dieu. La loi de l'Ancien Testament disait un lépreux vous touche, vous devenez impur. Et Jésus est venu et lui, il touche le lépreux. Et là, chose incroyable, c'est pas Jésus qui devient impur, c'est le lépreux qui est purifié. Donc Jésus, Dieu est venu, est devenu touchable. Alors la Bible nous dit qu'il est la parole faite chair. Lisez la Bible. La Bible, c'est pas un livre ordinaire. Moi, je suis un grand lecteur. Ma femme, elle est témoin, je suis un grand lecteur. Hein. Je peux pas m'empêcher de lire. Je vais aux toilettes, ils me font un livre. Je peux pas m'endormir sans lire. Et je lis de tout. Hein. Des romans, le journal, je lis de tout. Mais un seul livre est capable capable de sécher mes larmes quand je suis pas bien ou de me rassurer, c'est la Bible. Comprenez bien, je dis pas que les autres livres sont nuls, mais les autres livres, c'est quoi? Ça nous détend, ça nous distrait, ça nous informe, ça nous enseigne. Voilà, c'est ça. Au mieux, hein, ça nous fait du bien, quand de la poésie, de la belle littérature, bon, ça peut faire du bien sur le coup. Mais quand on est perturbé, quand on est face à des situations impossibles, eh ben, moi, je vous invite à lire la Bible. Parce que c'est pas un homme qui vous parle, c'est Dieu qui vous parle. Et on est étonné parce qu'on pourrait dire, mais la Bible c'est un vieux livre. Ben, je vous invite à lire la Bible. Parce que, bien des fois, pas tous les jours, hein, mais parfois ça m'arrive, j'ouvre la Bible, j'ai l'impression que le texte il vient d'être écrit à l'instant pour mon besoin présent. Maintenant. Pourtant, les textes les plus récents, ils ont plus de 2000 ans. Alors on pourrait dire, mais à quoi ça sert de lire un livre, hein, c'est vrai, les textes ils ont plus de 2000 ans. Mais béni soit Dieu, la parole de Dieu demeure éternellement. La Bible nous dit la feuille sèche là où la fleur tombe. Non, c'est comment? La fleur sèche, la feuille tombe. L'herbe sèche et la feuille tombe. Voilà, il y en a deux qui lisent la Bible là. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. Elle est éternelle. Alors il y a la parole de Dieu qui crée. Seul Dieu est le créateur. Et c'est important la parole créatrice parce que ça veut dire que Dieu est capable d'appeler au monde quelque chose qui n'existe pas. Un exemple. Dieu est capable d'appeler, de prononcer la guérison sur quelqu'un qui est malade et la guérison s'installera. Les médecins, ils pourront dire tout ce qu'ils veulent, mais ils ne feront que constater la toute puissance de Dieu. Dieu parle. Et la chose s'accomplit. Il est le seul créateur. Nous, on peut façonner, on peut transformer, on peut changer les choses, mais personne d'entre nous ne peut créer. Il n'y a que Dieu qui crée des choses physiques, la guérison, la délivrance. Dieu est seul capable de faire qu'un alcoolique soit délivré de l'alcoolisme. Dieu est le seul capable de parler sur le cœur de quelqu'un qui est rempli de colère et de lui apporter la paix. Dieu guérit aussi. La parole de Jésus guérit. Jésus veut guérir. Jésus aussi, la parole de Dieu, a autorité. On voit dans la Bible, il est sur un bateau avec les disciples, il y a la tempête. Et Jésus, à un moment donné, c'est étonnant la Bible, hein, Jésus va parler à la tempête. C'est étonnant ça. Hein, est-ce que la tempête aurait des oreilles? Ben, je peux vous dire que ce jour-là, la tempête s'est calmée. Dieu a parlé. Alors je sais pas à qui, mais moi je remarque que la parole de Dieu a autorité. Parfois il y a la tempête dans nos vies. Eh bien, laissez Dieu parler et la tempête se calmera. Parce que Dieu a autorité. La parole de Jésus, elle sauve. La première parole de Jésus à la croix du calvaire, ça a été « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font ». Et puis, je pourrais vous parler pendant des heures du fait que Dieu parle et combien de fois Dieu a parlé. Mais aussi, j'aimerais terminer avec la parole de l'homme. Vous avez cet homme qui s'est approché de Jésus. « Seigneur, dis seulement un mot ». Un mot et mon serviteur sera guéri. Mais vous pouvez le décliner, cette phrase. Hein. Dis seulement un mot et je serai sauvé. Dis seulement un mot et je serai consolé. Dis seulement un mot et ma vie sera transformée. Dis seulement un mot et je serai guéri. Dis seulement un mot et puis j'aurai un avenir et de l'espérance. Mais alors c'est quoi cette parole de l'homme qui peut toucher l'homme? C'est la parole de l'homme qui va vers Dieu. Et vous savez comment ça s'appelle bibliquement la parole de l'homme qui va vers Dieu? C'est ce qu'on appelle la prière. Ce que la Bible appelle la prière, la parole prière. La Bible nous dit, écoutez, ça c'est une loi. On a parlé de la loi, hein. La loi, eh bien il y a une autre loi que j'aimerais vous apprendre. Le psaume 34, verset 7. Voilà une loi. C'est quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Voilà, cherchez pas à compliquer les choses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand je me tourne vers Dieu, Dieu se tourne vers moi. Parfois, nous, on complique les choses. Oui, ouais. C'est même pas écrit quand un croyant crie. Parce que là, on pourrait encore dire, ouais, alors, il y a le croyant, il y a le non-croyant, alors comment il peut découvrir Dieu si, bon, voilà. Mais, non, non, Dieu est encore plus simple que nous. Mais quand un malheureux crie, avant même de croire, je pourrais vous raconter des témoignages d'hommes qui ont été transformés. Alors qu'ils ne priaient pas, et puis ils ont prié sans croire. Je me souviens de cet homme, Serge, voilà, chercher son prénom, Serge, dans le nord de la France. Il avait Serge, alors je vous fais Serge souriant, et regardez bien. Là, il était au maximum du sourire. Voilà, Serge Benoitas, voilà. On l'a connu jeune homme. Et quand il était jeune, il était, vous savez, vendeur de drogue. À même pas 20 ans, il avait fait déjà de la prison, pour vous dire. Il démarrait mal dans la vie. Hein. Et donc, il sort de prison. Et puis, il rentre dans son appartement, quelques temps plus tard. Hein. Il va dans son appartement et puis il réalise, en réfléchissant, que sa vie est raté, quoi. Il a tout raté, sa famille s'est détournée de lui, il a plus d'amis. Et puis il transporte de la violence, vous voyez, il transpirait, comme la Bible dit à propos de Saul de Tarse, quoi, qu'il respirait la menace. Hein. Eh bien, Serge, il respirait la haine, la colère, voyez. Vous avez de ces gens parfois qui parlent avec les poings, qui ne savent pas parler autrement qu'avec la violence. Bon, c'est comme ça. Et puis il rentre dans son appartement et il avait décidé de ce jour-là de se défenestrer. Il habitait à je ne sais plus quel étage dans une cité HLM à Amiens, dans la ville d'Amiens en Picardie. Et voilà qu'il rentre dans sa chambre et puis il ouvre la fenêtre de sa chambre et il va pour sauter par la fenêtre. Et voilà qu'il prie. Lui qui aurait pu, vous savez, se tatouer sur le bras ni Dieu ni maître, il croit en rien. Mais ce jour-là, il prie. Et vous savez ce qu'il dit ? Ou plutôt, il crie. Plus qu'une prière, il crie. Et il dit, s'il y a un Dieu, parle-moi maintenant parce que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Voilà textuellement ce qu'il dit. S'il y a un Dieu, qu'il agisse aujourd'hui. Et puis voilà qu'il va pour sauter par la fenêtre. Et puis, il entend quelqu'un qui sonne. Brin! Je le fais bien. Hein. Je vous le refais parce qu'en plus, ça réveille. Brin! Brin! Vous voyez la sonnette qui réveille même... vous mettez ça dans les cimetières, même les cercueils s'ouvrent. Hein. Brin! Et voilà qu'il se retourne. Il y a comme quelque chose qui le retient. Et maintenant, il le sait, hein. Il a compris que c'est l'Esprit de Dieu, mais à ce moment-là, il sait pas, il est empêché. Alors il va ouvrir la porte de son appartement, il se demande, mais qui vient là? J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas de rendez-vous. Mais qui vient? Et puis là, un gars d'à peu près son âge, je sais plus comment il s'appelle, d'à peu près son âge, son voisin de palier, mais vous savez, les voisins de palier dans les HLM, c'est ceux qu'on connaît le moins, hein, c'est bonjour, bonsoir, et encore, dans le meilleur des cas, mais il le connaissait pas. Et puis ce jeune homme lui dit, écoutez, je sais pas pourquoi j'ai sonné à votre porte. Je crois que c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous voyez, il n'osait pas lui témoigner, parce qu'il faut dire que le Serge... Vous voyez, vous lui serriez la main, vous changiez de main, quoi. Après, il fallait changer de main, voilà. Alors, vous voyez, il est un peu intimidant, il est toujours intimidant, Serge. Hein. Et alors, Serge, il le prend dans ses bras, il dit, vous êtes un ange, ou t'es un ange. Il lui casse quatre côtes, vous voyez. C'est un ange. Et Dieu a répondu à la prière. Voyez, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et puis Serge, ce garçon, il l'a emmené dans une église. Et puis là, son cœur était ouvert et il a compris que c'était pas un garçon qui l'avait empêché de se suicider, mais que c'était Dieu qui avait répondu à sa prière d'une manière instantanée, qu'il l'avait arrêté parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Et lorsque Dieu a vu cet homme vouloir mettre fin à ses jours, alors Dieu l'a arrêté. Vous savez, il n'y a rien de plus beau dans la vie que la vie. Il n'y a rien de plus beau dans la vie que la vie. Et puis je termine avec un autre témoignage. J'ai appris ça, moi, dans ma vie, que rien n'est plus beau que la vie. Je l'ai appris à l'âge de 18 ans, quand je passais le bac. On était toute une bande de copains. Et puis, c'était une semaine avant les épreuves du baccalauréat. Et on était vraiment une bande de gars, on était vraiment très proches les uns des autres. Et puis j'arrive le lundi au lycée, et puis voilà que mes copains, je les vois entre eux, il y en a qui pleurent et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils m'expliquent, Nicolas il s'est tué ce week-end. Je dis, quoi, c'est pas possible? Et on m'explique, il est parti avec un copain, vous savez, un gars qui avait le permis de conduire, et puis ils sont jamais revenus, quoi. Et Nicolas, alors on s'est retrouvés à l'enterrement, vous savez, au cimetière, on était là avec la famille, et puis on était toute la bande de copains, je me souviens, on était 4 ou 5, on était là, il y avait un gars qui s'appelait Jean-Marc, etc. Et puis Jean-Marc, c'était le plus riche de la bande, le plus riche, c'est lui qui avait la moto, la petite 49-9 là, vous savez, moi j'avais le 103 SP, vous avez connu ça, le 103 SP, c'était génial ça, hein, voyez, mais lui il avait la moto, et Jean-Marc, il passe devant le cercueil, et puis on est là, on s'incline, on ne sait pas comment faire, voyez, là. Vous savez, à 18 ans, c'est trop tôt pour affronter ce genre de choses. On n'est pas préparé à ça. Enfin, on n'est jamais préparé à la mort, en fait. Hein. Et on se dit quand même, le copain, il est parti trop tôt, Nicolas. Et je me souviens, Jean-Marc, bon, on ne connaissait pas Dieu. Moi, je ne connaissais pas Dieu à l'époque. Hein. Et puis Jean-Marc, je l'entends dire à Nicolas, il parlait, voilà, notre copain, voilà. Il dit, Nicolas, si tu reviens, je te donne ma moto. Et alors nous, vous savez, les bandes des fois, alors moi c'est pareil, écoute, je te donne mon S, pourtant j'y tenais à mon 103 SP, hein, j'y tenais, hein, elle Peugeot 103 SP pour faire du cross là, hein. J'y tenais, hein, c'était mes parents venaient de me l'offrir et tout. Et pareil, je me mets à dire, et sincèrement, vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que ce jour-là, on a réalisé que tout ce qu'on avait, c'était rien par rapport à la vie. Qu'on venait de perdre quelqu'un qu'on ne reverrait plus jamais. Et que je préférais encore perdre mon tout, même ma moto, enfin le tout, mais pas perdre une vie. Et j'ai commencé à réaliser ce jour-là qu'il n'y a rien de plus précieux que la vie. Et j'aimerais vous dire que Dieu nous a tellement aimés, qu'il ne veut pas que notre vie soit gâchée, qu'il ne veut pas que votre vie soit gâchée. Et c'est une belle vie qui s'offre pour lui, là. Le gars qui passe par les eaux du baptême, il n'y a rien de plus beau. Parce que Dieu a un avenir et de l'espérance pour chacun d'entre nous. Et quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Parce que, vous savez, c'est comme quand un nourrisson pleure, la maman, elle l'entend, hein. Même dans la foule, la maman, elle est capable de ah, c'est mon gamin, c'est ma gamine qui piaille, là, qui, hein. Dieu, il entend. Il entend le cri. Il entend le cri de tous les êtres humains. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. En un mot, ta vie peut changer. Il suffit que tu dises cet après-midi oui à Jésus. Que tu dises oui, j'ai besoin de Jésus. Est-ce qu'on peut terminer par la prière? On va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions. Remercions, Seigneur, pour ces instants que tu nous donnes. Nous réalisons, Seigneur, que ta parole est la vérité. Et que ta parole, elle sauve, que ta parole, elle console. Que tu es venu, Jésus, et toi-même, tu es la parole incarnée, faite chair, venue pour nous toucher, pour nous relever, pour nous ramener dans la maison du Père. Seigneur, merci d'étendre ta main. Merci de faire grâce à l'un, à l'autre, de toucher des cœurs et aussi de toucher des corps dans le beau nom de Jésus. Je te demande d'étendre ta main. On va rester les yeux fermés.